Eh bien, je vous remercie d'être venu à ce café scientifique. Donc, vous savez que les cafés scientifiques sont organisés par l'association Science Action. Alors, nous organisons tous les mois une réunion. C'est-à-dire, tous les 3 mois, nous organisons deux cafés scientifiques et puis un ciné scientifique qui se passe à l'Astrée. Voilà. Et donc, en janvier, nous aurons un café scientifique dans ces locaux qui portera sur la météo. Voilà. Oui, mais ça sera plus large parce que ça ne sera pas centré sur la montagne. Donc, aujourd'hui, le thème de notre réunion est la montagne. Et évidemment, nous nous demandons quel est l'avenir de la montagne, quel est l'avenir économique de la montagne, mais aussi quel est l'avenir social ou environnemental de cette montagne. Parce qu'effectivement, les Savoies se sont largement développées sur l'exploitation de l'or blanc. Et effectivement, ça a considérablement enrichi la région. Mais il y a des mais. Ça s'est fait peut-être au détriment de l'environnement. Et puis, aujourd'hui, avec le changement climatique, on se pose quand même des questions sur la viabilité de certains investissements. Donc, nous allons passer notre soirée à débattre de ces thèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous rappelle un peu le déroulement de la soirée. Premièrement, je vais donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent brièvement. Ils vont vous expliquer quelle est leur fonction et puis quel est leur centre d'intérêt, leur domaine de compétence. Ensuite, nous allons vous donner la parole, c'est-à-dire que nos invités sont là non pas pour faire une conférence, mais pour répondre à vos questions. Vers 9h15, nous allons faire une pause. Cette pause sera l'occasion d'aller se désaltérer au bar. Et puis, un quart d'heure après, nous reprenons la seconde partie de la soirée et nous arrêterons nécessairement à 10h30 de façon à permettre aux personnes qui tiennent ce café de ranger la salle. Donc, je vais commencer par donner la parole à nos invités. Et si vous voulez commencer, et nous allons ne pas mélanger les micros.
Oui, merci et bonjour à tous et à toutes. Alors, je me présente André Colas, avec deux L à Colas, c'est pas la société routière. Et du point de vue de mon métier, j'étais forestier, gestionnaire d'espaces naturels, en partie en Savoie. Donc, je connais un petit peu une partie territoriale de la Savoie. Et maintenant que je suis retraité, je suis adhérent de la FRAPNA Savoie. La FRAPNA, c'est la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature. Donc, vous comprenez que ce sont les écolos. Et là, à la Savoie, à la FRAPNA, on accueille beaucoup de demandes très précises, particulières, des fois, de gens qui sont mécontents de tel ou tel événement qui se passe en montagne, des constructions, des pistes de ski, ou au contraire, ils sont très contents. Il y a toutes les situations et on essaye de voir et de leur répondre. Donc, c'est une réponse, des fois, au ras de terre, mais qui intéresse quand même une ou deux ou trois ou personne ou une association. Et donc, je suis bénévole et je m'occupe de cette partie montagne à la FRAPNA.
Merci. Bonsoir, Georges Marchand. Donc, moi, j'ai été exploitant de domaines skiables. En général, des domaines skiables, soit en dépôt de bilan, soit en liquidation. Et voilà, donc c'est un peu ma spécialité.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de stations où vous avez sévi?
Ben, je suis arrivé ici en 89 pour la FECLA, où la commune empruntait pour équilibrer son budget de fonctionnement. Et il a fallu créer un regroupement des différentes stations, créer une SEM d'exploitation et puis essayer d'équilibrer nos comptes. Ensuite, en 91, après l'année sans neige, le département de l'Isère a déposé le bilan de la station des Sept-Îlots. Et j'ai fait un plan de redressement. Et j'ai géré pendant 20 ans pour garder la main et savoir un peu comment marche ce métier. Et parallèlement à ça, je faisais des opérations d'intervention dans les stations difficiles, donc de nombreuses. Et j'ai fait en 2007, j'ai fait la reprise de Valfréjus après la liquidation de Transmontagne, où aucun repreneur voulait gérer la station.
Donc, bonsoir, donc, moi je m'appelle Annie Rouard, je suis professeure à l'Université Savoie-Mont-Blanc et je dirige le pôle touristique Montagne Inventive, qui est un, on pourrait pour résumer dire, un centre de ressources pour les territoires et les professionnels, qui regroupe finalement et qui essaye de fédérer autour des thématiques du territoire et des problématiques de la montagne et du tourisme de montagne, différentes formations et différents laboratoires. Donc sa particularité, c'est de travailler pas sous un angle purement marketing, mais en croisant plusieurs approches économiques, sociales, évidemment géographie et autres, autour des problématiques donc, du tourisme de montagne.
Et vous avez beaucoup d'étudiants ?
Alors, nous, au pôle, on n'a pas d'étudiants. Par contre, là, cette année, on a fait les chiffres il n'y a pas longtemps. On a 345 étudiants de 27 formations qui travaillent sur les thématiques du tourisme de montagne pour cette année, sur des projets qu'on a qui peuvent aller... Donc, on a des programmes européens sur, par exemple, la culture comme vecteur d'attractivité territoriale, les chemins de la culture de Chambéry à Turin. C'est un programme qu'on a avec l'Italie. On a un autre programme avec les Suisses sur la mise en tourisme de la zone transfrontalière, à savoir que le tourisme, il n'a rien à faire des frontières administratives. Il circule et aujourd'hui, ben, on ne l'accueille pas. On dit débrouille-toi, tu passes la frontière et tu dois te débrouiller pour gérer tout ça. Et on travaille beaucoup dans ce domaine-là sur la création de réseaux d'acteurs, puisque aujourd'hui, le tourisme souffre du fait que c'est un secteur extrêmement atomisé. Je dis toujours qu'on peut imaginer une entreprise, quelle qu'elle soit, où le directeur, ou l'ingénieur, ou le comptable, ou la secrétaire, ou le commercial fait ce qu'il veut. Pour une même entreprise, ça serait inimaginable. Dans le tourisme, c'est ça. C'est-à-dire que l'hébergeur, il fait ce qu'il veut, il communique comme il veut, il fait les tarifs qu'il veut, il fait l'information sur les transports où il ne le fait pas. Le transporteur, il fait pareil, les prestataires d'activité font pareil. On est un secteur qui est complètement atomisé et qui souffre économiquement, en particulier à cause de ce côté atomisé. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des process pour les accompagner à travailler un peu plus ensemble.
Bonjour, moi je m'appelle Christophe Schex, donc je travaille à l'Agence Alpine des Territoires. Donc ma spécialité, c'est le changement climatique. Voilà, donc j'aime dire que je travaille de la donnée jusqu'à l'aide à la décision. Donc j'étudie l'évolution du climat en montagne, j'étudie les impacts que ça peut avoir sur les ressources naturelles et les activités humaines. Et puis surtout, en ce moment, mon travail, c'est d'essayer de conseiller ou d'accompagner alors, les collectivités, les élus, les acteurs socio-économiques sur la manière de s'adapter à ces évolutions. Voilà.
L'Agence Alpine du Territoire, donc c'est une association, c'est financé par qui ?
C'est une association qui est financée en partie par le Conseil général de la Savoie, tout un tas d'autres collectivités et des prestations privées. Voilà. Donc, un financement multiple. C'est une agence qui ressemble, si vous voulez, à une agence d'urbanisme, mais c'est une nouvelle agence qui serait savoyarde, voilà. Mais qui peut travailler sur l'ensemble des territoires, évidemment.
Et par exemple, vous travaillez pour qui ?
Alors, moi, je travaille pour l'agence.
Oui, mais je comprends bien, mais l'agence, qui est-ce qui fait appel à vous ?
Alors, on est 48, donc et on traite de tous les sujets. Donc, beaucoup de monde font appel à nous. Principalement les collectivités, typiquement pour mon sujet, étant donné que le changement climatique et surtout l'adaptation au changement climatique, on va dire que ce n'est pas des stratégies qu'on va mettre en place forcément au niveau, à un niveau très fin comme à l'échelle de commune, on va être plutôt à une échelle plus large, donc typiquement des intercommunalités, par exemple comme Grand Chambéry, comme des parcs, comme comme des intercommunalités en Tarentaise, par exemple. C'est plutôt, à la base, c'est plutôt des collectivités. Mais on essaye de développer un gros réseau dans lequel, voilà, sur le changement climatique, dans lequel on essaye d'apporter toutes nos compétences pour que le sujet voilà, s'imprime de plus en plus et que l'objectif, c'est que voilà, y a une culture vraiment qui se forme sur cette question du changement climatique et que n'importe qui, à un moment donné, lorsqu'il doit prendre une décision, pense que c'est un critère maintenant à intégrer, quoi.
Merci. Bon, et bien maintenant, la parole va être à vous. La parole est à la salle. Si quelqu'un veut poser la première question. Nous avons deux micros, un ici et un autre là-bas. Allez, une première question sur la FECLA.
Donc, ben, tout simplement pour démarrer, je reprends le titre de la conférence, c'était « La fin de l'Eldorado ». Pouvez-vous nous parler des chiffres pour la fréquentation de la montagne cet été, en été 2018?
Donc, est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de touristes en Savoie l'année dernière?
Cet été, oui. Cet été, oui. Mais comme l'a dit Yannick, donc des chiffres assez difficiles. Hein. On mesure des nuitées, elles sont en très nette augmentation. Pour un exploitant, je peux parler en tant qu'exploitant, ça représente que des comptes de charges, puisque vous avez très peu de recettes. Donc vous faites tourner des télésièges, hein, où la fréquentation n'a rien à voir avec l'hiver, c'est des appareils qui sont capables de transporter 1000 personnes heure, vous en transportez 15 ou 20. Et donc voilà, c'est des comment faire fonctionner ça et comment trouver les recettes pour faire ça. Et donc c'est tout un métier. Hein. Les fréquentations de ces appareils-là, par contre, on les a très bien. On voit que ça, effectivement, ça progresse. Hein, on met aussi des lunes à parc, on met des luges d'été, on essaye de faire des tas de trucs. Hein, est-ce que c'est ce que attendent les gens? Est-ce que c'est adapté? Ça demande beaucoup d'argent. C'est très souvent un lieu privé. Donc, on pourrait développer les randonnées, mais il y a du pastoralisme. On pourrait décider de passer à tel endroit parce qu'il y a un point de vue magnifique. Mais c'est chez un privé qui n'a pas du tout envie, qui est capable de mettre sens interdit aux piétons. Et donc, voilà, toutes ces problématiques sont là. C'est très complexe, la montagne l'été. On sent une très forte poussée de fréquentation, mais avec cette espèce de consommation anti-marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez au ski, vous n'oubliez jamais votre carte bancaire, parce que vous n'allez rien faire. Quand vous allez en montagne, vous prenez votre sac à dos, une tranche de jambon, un sandwich, et vous faites une rupture complète avec la consommation. Et donc, nous, on gère ça. On gère énormément de gens qui viennent et qui ont envie de cette rupture. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est parce qu'à un moment, il faut se déconnecter que ça. Les vraies vacances, c'est quand même essayer à un moment d'oublier sa carte bancaire. Donc, la montagne, c'est beaucoup ça. Comment on va gérer ça? Il faut beaucoup d'idées. Les exigences sont très faibles. Je ne pense pas que tout le monde ait envie d'une luge d'été à 2 millions d'euros. Je pense que les gens ont envie d'un banc pour s'asseoir, pour regarder le Mont Blanc, pour regarder le paysage. Hein, des choses très soft, mais très difficiles à mettre en place. Très difficiles à mettre en place parce que, hein, on va sûrement en parler ce soir, ça va ouvrir tous les débats qu'on a ce soir. L'investissement en montagne, c'est d'abord un investissement immobilier. Le vrai développement de la montagne a commencé, non pas par le ski, mais par le développement immobilier. Hein, les promoteurs arrivaient, construisaient, ça donnait un fonctionnement automatique. Dans les taxes qu'on prenait aux promoteurs, on créait des remontées mécaniques, on créait une station. Et ce schéma-là, c'est idiot à terme. Ça a permis là où on est, donc il ne faut pas critiquer. Mais le continuer, c'est suicidaire. Tout lit nouveau créé arrête un plus vieux. On ne progresse pas, nos journées skieurs baissent. Et chaque fois qu'on crée un lit, on enferme un vieux. Et donc voilà, il faut retrouver des schémas de cohérence pour essayer effectivement d'utiliser la montagne, de continuer d'en vivre, parce qu'à moins que chacun ici veuille retourner ramoneur à Paris, hein, ou d'aller ouvrir les huîtres, hein, il faut effectivement reconstruire un nouveau fonctionnement. On est encore dans le système ancien. Quand une station veut attirer un promoteur, le promoteur dit: grandeur du domaine skiable, combien de kilomètres de piste, combien de domaines liés? Ah ben, si on n'est pas le numéro un, moi je viens pas, je vais aller là où c'est la meilleure station et là où c'est le plus grand, là où c'est le plus beau, parce que je vais vendre mes lits, après je vais m'en aller. Donc voilà, ça répond très ouvertement à votre question. Maintenant, posez des questions plus précises.
La montagne, ça se fait en hiver ou en été?
La montagne, c'est sûr que ça se fait en hiver, mais en termes économiques, je m'entends en termes de rentrée économique, mais il faut bien replacer les choses. Il n'y aurait pas eu le plan neige des années 50. Si vous regardez ce qu'a injecté l'État, et on le voit très bien dans les pays émergents, nous, on travaille beaucoup avec la Chine, par exemple, actuellement, on voit bien que si l'État n'avait pas mis tout ce qu'il a mis dans les années 50, on ne serait pas aujourd'hui à ce qu'a pu rapporter le ski. Si on fait le rapport de combien coûte une remontée mécanique et de combien elle rapporte, on n'est pas si rentable que ça. À un moment donné, il faut bien qu'il y en ait qui payent. Il faut bien que l'État et les collectivités ont beaucoup, beaucoup aidé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les petites stations où les collectivités et le département sont en train de se retirer, ben, il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Donc, voilà. Après, pour l'été, je ne partage pas tout à fait cette vision. Globalement, sur les dernières années, et cette année, avec la chaleur qu'il a fait, tout le monde pensait que les chiffres exploseraient. Ce n'est pas le cas du tout. Quand vous discutez avec les professionnels sur le terrain, ils ne sont pas si contents du tout de ça, de la saison d'été qu'ils ont fait. Bon, vous me direz, ils râlent tout le temps, mais OK. Mais quand même, globalement, sur les dernières années, le tourisme d'été baisse. Et il y a eu des efforts de fait parce que, mine de rien, vous avez votre enfant à la plage, vous le posez à 8h du matin, vous lui achetez un chichi, OK, ça ne vous coûte rien. Quand vous êtes à la montagne, que vous avez 3 enfants, que vous devez payer le mini-golf, l'entrée à la piscine, et ainsi de suite, c'est un budget pour une météo qui est incertaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de stations qui ont fait des efforts et qui proposent des passes où, effectivement, les familles peuvent avoir un panel d'activités à un prix relativement intéressant.
Une autre question ? Prenez un micro, s'il vous plaît.
Bon, les pratiques changent aussi bien l'été que l'hiver par rapport aux sports qui sont pratiqués. Quel problème est-ce que cela pose pour les responsables de stations, entre autres en sécurité, je pense que c'est un vaste problème. Actuellement, on randonne. Bon, il n'y a peut-être pas trop de problèmes, mais on veut escalader. On dit attention, quand on va dans le massif du Mont-Blanc, j'ai même lu. À la limite, certains élus réfléchissent à l'interdiction d'aller au Mont-Blanc à cause de problèmes climatiques, justement. Hein, le fait que le permafrost réchauffe, qu'on peut avoir des éboulements n'importe quand dans la journée, fait qu'il faudra peut-être demain interdire certaines pratiques. Bon, et puis les gens s'amusent à voler maintenant, ils s'amusent à faire plein de choses, et on se rend compte que il y a de plus en plus de problèmes auxquels les stations ne sont peut-être pas prévues. Et il y a des problèmes de secours. Voilà. J'aimerais un peu que vous donniez une opinion.
Si vous voulez, moi, je vais répondre. Hein. Et vous avez vu, déjà, sur le premier sujet, on n'est pas tout à fait d'accord. Quand on fait la fréquentation d'été, c'est vrai que quand on met dans la machine les consommations de nuitées, etc., c'est difficile à voir. À l'inverse, si vous êtes à la FECLA, vous voyez bien que la fréquentation augmente. Hein, le tourisme de journée, la fréquentation de ces montagnes-là, mais elle n'est pas quantifiable. Elle n'est pas quantifiable dans cette loi, elle n'est pas quantifiable. Mais les chemins de randonnée, les refuges marchent beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Hein, donc, mais on peut avoir un avis différent parce qu'effectivement, si on regarde l'économie générée, ce n'est pas encore ça et pas du tout. Pour répondre à votre question, donc effectivement, le ski change beaucoup. Il est en train de muter. Il y a deux problèmes énormes, c'est que déjà, on skie de moins en moins. Donc les skieurs sont de plus en plus vieux. Il n'y a plus de classe de neige, ça va tuer le métier. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'apprendre à nos enfants, ça va s'arrêter. Et on s'aperçoit que, moi j'ai géré les Sept-Lots, quand je descendais dans les lycées à Domaine, en bas des Sept-Lots, vous aviez moins de jeunes qui faisaient du ski que dans un lycée à Lyon. La pratique s'arrête. Et si on n'a pas fait de ski avant 20 ans, on n'en fera plus jamais. Donc, on est en train de mourir par le vieillissement de la population et de plus faire de classe de neige, de plus apprendre aux enfants à aller skier. C'est un vrai problème. Et nos produits, dans les grandes stations, ne sont pas adaptés aux enfants. Hein, il vaut mieux aller au Planolet, si les gens connaissent ici, que d'aller à Val Thorens pour apprendre à des jeunes à faire du ski, ou même d'aller au Sept-Lots. C'est pas fait du tout pour. C'est difficile, il faut porter les skis, aller à la caisse. C'est inextricable. Moi qui emmène mes petits-enfants, mais je dis, mais j'ai géré des stations, mais comme j'étais mauvais, j'en peux plus, je rentre ce soir, je suis crevé, parce qu'il n'y a rien de fait pour. Il n'y a rien de fait pour. Donc le vrai travail qu'on va avoir, c'est ça. L'Autriche fait plus de chiffre d'affaires que nous, avec moins de 9 millions d'habitants. On dit qu'on est les champions du monde, on est zéro. Avec 70 millions d'habitants, on fait un chiffre d'affaires inférieur que l'Autriche. Donc il y a un vrai problème. Vous avez parlé maintenant des utilisateurs. Quand je suis arrivé au Settelot, aucune chance d'équilibrer cette station. Donc vous faites un plan de redressement, vous licenciez des gens et vous dites « je vais aller à la fermeture ». Le département arrête de mettre de l'argent. Pourquoi il arrête de mettre de l'argent ? Parce que l'Isère était bien pour ça, il y avait beaucoup d'exploitants privés. Collet d'Alvar privé, Champs-Rousse privé, Villard-de-Lans privé, Deux Alpes privées. Et donc les gens disaient au département, mais gérer plus mal, c'est impossible. L'argent public, vous savez rien faire. Et donc le département, avec une pression des autres stations, a fini par dire, je dépose le bilan. Et vous prenez ça et vous dites, je ne vais jamais y arriver. Ce que je veux essayer de dire ici, c'est la volonté fait tout réussir. La force de la volonté fait tout réussir. Moi, j'ai essayé d'équilibrer. J'ai fermé la dernière remontée, la plus belle, parce que j'ai estimé qu'ils ne savaient pas la gérer. Donc les gens ont dit, ça y est, on est mort. Avec ce directeur-là, on est mort. Et effectivement, je pensais que j'allais les tuer. Hein, j'avais licencié et puis le chiffre d'affaires allait baisser. Comme je n'avais pas d'argent parce que c'était dépôt de bilan, je ne pouvais pas investir. Et quand je voulais acheter une dameuse, personne ne voulait me prêter. Parce que le passé des sept lots faisait qu'on ne va jamais prêter à des gens qui n'ont jamais rien payé. Eh bien, on arrive à se redresser de ça. On se demande comment. C'est que le télésiège que je ferme, parce que les gens mettent beaucoup trop de temps pour l'ouvrir, eh bien un jour, le même pisteur vient et dit, Monsieur Marchand, est-ce qu'on pourrait essayer de l'ouvrir ? Je dis non, il vous faut six pisteurs, la machine met deux jours avant d'arriver là-haut, jamais. Mais non, mais avec ce qu'on a, je dis c'est nouveau, et les gens finissent par retrouver ça. Vous arrivez à faire des pistes noires, il n'y a plus aucune. On met des jalons sur les côtés, on ne fait plus de frais de damage, on ne fait plus rien, et ça fonctionne. Ça fonctionne, nouvelle pratique. Les gens aiment ça. Interdit de damer quand il neige. Parce que si vous damez les pistes, les gens vont à côté de vos pistes. C'est quand même curieux, ça. Vous faites des belles pistes, vous y passez du fioul, des dameuses, et le matin, vous regardez ça, les mecs qui, à côté des pistes, vous avez tassé la neige qu'ils venaient chercher. Et donc, voilà, on a trouvé des nouvelles occupations. On a fait un desto-parc géant. Ça a marché formidable. Les étudiants de Grenoble disaient, non, on ne va pas au Settelot, c'est pourri. Donc c'est difficile de dire comment on va les faire revenir. À un moment, vous dites à un jeune, mais comment faut faire pour venir là ? Ben, je veux une dameuse, on va faire des bosses énormes. Ah là là, mais les mecs tombent sur la tête. Mais comment ça va finir ? Et puis ça marche. Et puis ça marche. Avec les gens qui viennent voir, les types qui font un 360 plus deux pirouettes et qui retombent sur leur ski, ça vous donne une notoriété. Les gens viennent voir et puis ça passe. Plus personne n'a envie de voir des surfeurs qui se font des sauts. C'est autre chose maintenant. Maintenant, c'est descendre des pentes comme ça. Jalonner, déclencher, faire venir l'hélico pour quand même la neige ne les ensevelisse pas. Et ça marche. Donc voilà, c'est assez curieux. Ça mute complètement. On n'apprend pas à nos enfants, donc c'est très grave. Il faut s'adapter parce que les consommations sont folles. On ne vend plus une journée de ski sans que le mec est allé sur la météo avant. Donc quand il fait mauvais avec du brouillard, vous avez beau faire tout le commerce que vous voulez, personne ne viendra. C'est une chaussette trouée, mettez pas d'énergie à vendre des chaussettes trouées, c'est pas possible. Et donc, il faut s'adapter, donc la rentabilité se fait sur 30 jours, 40 jours. C'est Roland-Garros. Ça dure 15 jours, on doit faire avec. On est sursaturé, on se dit mais le produit baisse en qualité, il y a du monde partout, c'est la folie, c'est comme ça. Le marché est comme ça. Notre travail, suivre le marché.
Et le hors-piste, ça marche bien ? Ça s'est développé ?
On n'appelle plus ça hors-piste. Vous regardez le plan des pistes des Settelots, vous avez énormément de pistes noires qui sont jalonnées, mais sans aucun service. C'est-à-dire simplement, on dit, sortez pas des jalons. De chaque côté, il y a des jalons. Et notre travail, c'est simplement de déclencher.
Mais est-ce que ce n'est pas spécifique à la station des Settelots ? Est-ce sa situation proche ?
Bien sûr que si. Faites pas ça dans une station de séjour.
Voilà.
Bien sûr.
Je pense qu'on ne fait pas ça dans les.
Voilà. Faites pas ça à Megève. L'activité, 80% de l'activité ski à Megève, c'est prendre des skis qui datent de 20 ans c'est aller au restaurant. Donc, on se lève à 10h30, on va au restaurant, on mange au restaurant. Les restaurants sont tous extraordinaires. Et on rentre à 2h. Le ski à Megève, c'est ça. Le ski à Combloux, c'est ça. Et donc, voilà, ne faites surtout pas de règle générale. C'est sûr, ne faites pas de règle générale. C'est comment on a sorti... Je donnais l'exemple des sept lots parce que je croyais que ça allait mourir. Je croyais que ça allait mourir et c'est pas mort. On a trouvé les niches. Moi, j'ai pas fait comme on fait ailleurs. Faut créer des lits, faut créer des lits. Ça va amener des clients, c'est formidable. Pas un lit créé. Pas un lit créé, c'est... Quand les Russes... Parce qu'on allait arriver à démarcher des Russes pour venir au sept lots. Quand les Russes arrivaient au sept lots, ils voulaient pas descendre de voiture. Ils se croyaient dans les banlieues de Moscou. Dans leur imaginaire, ils avaient fait 3000 bornes en bagnole. Dans leur imaginaire, ils arrivaient dans un chalet. Parce que la France, c'est Megève, c'est Courchevel, c'est des chalets. Et donc, ils arrivaient en bagnole au fond de ces barres d'immeubles. Ils voulaient retourner à Moscou. Et donc, voilà. Mais c'est fou, toutes ces histoires. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et donc, on ne fait plus de Russes. Vous envoyez... partout dans le monde, des gens qui sont insatisfaits. Donc moi, je disais, surtout, laissez-le, arrêtez de faire de la pub. Arrêtez de faire de la pub. On avait une fois amené plus de 2000 Canadiens, plus de 2000 Belges à l'été. Un tour opérateur formidable. Mais on a passé 20 ans à effacer ça. Allez jamais dans une station pourrie comme ça. Donc voilà, il faut s'adapter à son marché.
En fait, vous avez un public local.
Là, ayant des lits totalement invendables, 50% des appartements des sept lots faisaient moins de 21 mètres carrés. Ça a été créé par Merlin, qui a fait une arrivée du Tour de France. Ça ne va pas servir l'intelligence des Français. Il mettait une caravane, il faisait arriver le Tour de France et il vendait 450 appartements le jour de l'arrivée du Tour de France. Donc les mecs disaient « j'en veux, j'en veux ». Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Acheter un appartement à la montagne, à l'époque, l'inflation était à 12%. Donc, le banquier vous disait, et l'épargne était rémunérée à 4%. Donc, vous aviez une érosion monétaire. Et donc, le banquier lui-même vous disait, achetez, achetez. Donc, il y avait une demande folle. Le banquier vous prêtait. Et on vendait des appartements à la montagne. Ribourel les construisait. Et après, vous passez, vous êtes définitivement ruiné. Et moi, j'arrive au sept lots et je ferme la vis. Il y a au sept lots, je parle peut-être trop longtemps. Ça vous intéresse ou pas ?
C'est passionnant, mais vous aurez l'occasion d'en reparler, je pense.
Je finis celle-ci quand même. Donc, la commune a mis un arrêté municipal pour dire c'est interdit de mettre à vendre vos appartements. Parce que tous sont à vendre. 80% des appartements à vendre. Le département dépose donc le bilan et 80% des appartements sont à vendre. Donc moi, j'arrive et je ferme les services. Donc, les gens veulent me tuer. Donc, j'ai des réunions de propriétaires où les gens disent, ah ben alors, plus nul que vous, il faut faire un télésiège ici, il faut faire ça ici pour relancer et vous faites tout l'inverse, vous fermez, vous êtes le nul des nuls. Je dis non, je dépense seulement l'argent que j'ai. Il y a une seule chose que je vais faire, c'est ça, compter. Je suis vraiment con. Il y a une seule chose que je sais faire, c'est compter. Seulement, moi, je vais vous dire une seule chose. J'ai vu les pubs pour acheter un appartement au sept lots. J'en ai jamais acheté. Vous, vous êtes les gogos qui les avez achetés. Et maintenant, on est dans la merde et c'est de ma faute. Non, c'est de votre faute. Vous avez acheté ça. La seule chose que je peux faire, c'est faire fonctionner la station et comme ça, vous utiliserez votre bien. Chacun son job. Plus jamais je veux vous voir. C'est à cause de vous qu'on est dans cette merde. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'arrête.
Suite au prochain épisode.
Moi, je n'ai pas fermé de station de ski, vous vous en doutez, mais je suis conscient de ce que la majorité des participants, des Français, maintenant se rendent compte que la fréquentation hivernale de ski de piste n'est pas en progression, malgré l'apport de skieurs étrangers. Donc, la fréquentation classique du ski est calme, mature, comme on dit maintenant. Et ça, c'est important de dire ça. Alors, ça veut dire qu'il faut chercher autre chose que ce qui a, la locomotive qui a fait fonctionner les grandes stations pendant des dizaines d'années, il faut bien le dire, ce qui était le chalet en bois, la neige, le ski et le bois de sapin, la rigueur au fond de l'horizon. Donc, une autre perspective à trouver. Et on l'a évoqué actuellement, l'Autriche. Pourquoi l'Autriche attire autant de touristes l'hiver, il me semble, c'est qu'il n'y a pas que le ski qui est offert aux touristes en Autriche. Il y a autre chose que le ski. Il faut chercher ce qui pourrait venir de la montagne et intéresser les touristes. Et nous, à la Frappna, on a quand même une piste qu'on envisage toujours, mais qui n'est pas beaucoup pratiquée, c'est que la montagne, c'est quand même d'abord un capital nature. Et ce capital nature, même un touriste qui débarque devrait pouvoir y accéder par une pédagogie, par des animateurs, par des communes qui font des représentations, des expositions, de manière à trouver un autre centre d'intérêt que la neige en montagne et en hiver.
Est-ce que c'est ce que vous observez ?
Ah oui, je pense là, je suis complètement d'accord avec ça. On était encore avec l'élu du département avant-hier et hier avec l'élu de la région. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des grandes stations qui sont dans le déni et qui pensent qu'ils vont continuer à gagner avec le ski. Or, aujourd'hui, il y a 60% par exemple des jeunes sur le bassin Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy qui ne mettent pas les pieds en montagne une fois dans l'année. Il y a 85% de gens qui font un cours de ski pour la première fois qui disent jamais plus. Il reste à peu près 17% de vrais skieurs. Les autres, ils ont envie de faire d'autres choses. Et si on met ça en parallèle un peu avec les chiffres liés à l'activité sportive, aujourd'hui, il y a 58% de Français qui font une activité physique une fois par semaine. Et dans ces 58%, il n'y en a que 6% qui font ce que nous, on appelle du sport. Alors, on travaille en ce moment, par exemple, avec le territoire d'Annecy, pour dire, mais en fin de compte, arrêter de communiquer et d'attirer les sportifs, ok, ceux-là, il faut les fidéliser, il faut leur permettre de continuer leur pratique, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne viennent pas à la montagne parce que qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que des images de sensations, de frissons, de gens qui prennent des risques, de gens qui transpirent, mais il y a plein de gens qui n'ont plus envie de ça. On dit que la population de ski est vieillissante aujourd'hui. La moyenne des skieurs, c'est plus de 45 ans. Ce n'est pas que le problème des classes de neige. C'est que, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu assister à Génération Montagne qui a été organisée il y a une dizaine de jours par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait un tout petit film qui a été fait par un lycée lyonnais. Et les gamins, ils disaient, il fait froid, c'est dangereux, ça coûte cher. Donc, on est quand même dans une logique aujourd'hui où il y a un changement, on pourrait dire, d'un point de vue philosophique, de rapport au corps, de rapport à l'effort, que les stations n'ont pas pris en compte. Et on est toujours sur ce modèle de sportif, d'engagé, de physique, qui ne fait plus rêver et qui ne fait plus rêver les jeunes. Les jeunes, quand ils sont interviewés, ils vous disent « le ski, c'est ringard ». Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec 28 étudiants, j'ai demandé « qui c'est qui fait du ski ?» Il y en a 6 qui ont levé la main. Les autres, non. Et ce n'est pas que pour des raisons financières. C'est aussi parce que c'est un modèle d'activité qui les fait plus rêver. Et on parlait tout à l'heure du freestyle, du freeride, et de ces, si je connais bien ce milieu par mes enfants. Nous, quand on était dans notre génération, on voyait un Kili, on voyait une Isabelle Mire, ça nous parlait, on avait envie d'aller faire du ski. Aujourd'hui, le White Festival qui a eu lieu et qui était avant Annecy a drainé énormément de monde. Ils ont été très surpris parce que le public qui était là, c'était des familles et non pas des jeunes comme ils attendaient. Et deuxièmement, les jeunes qui suivent ça, y compris sur Internet, parce que les réseaux sociaux marchent très fort avec ce type d'activité, ils savent très bien que c'est jamais eux qui sont en train de faire des loopings là-haut sur les bars. Donc il n'y a pas cette identification finalement à tout ce sport médiatisé, que ce soit le freeride ou freestyle, parce qu'ils savent globalement que ce n'est pas eux qui sont capables de faire ce type d'activité. Donc, je veux dire, il y a tout un changement de mentalité aujourd'hui et de culture. Et les stations, comment elles répondent ? Elles sont dans le déni. On construit des hôtels 4-5 étoiles. Là, je rejoins complètement le point de vue qui a été... la seule préoccupation, c'est construire des lits. Voilà. Construire des lits. Et là, maintenant, c'est construire des lits dans du luxe. Parce qu'on veut des gens qui aient du pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, encore une fois, on ne fait aucun effort pour ces gens qui ont peur de la montagne, de la façon dont on leur la présente, et qui pourtant pourraient être tout à fait bien. On peut être bien dans son corps, on peut faire des choses super sympas avec son corps, sans forcément transpirer et sans forcément jouer sa vie. Et ça, ce n'est pas du tout une image qu'on souhaite développer.
J'avais une question, pas une question, mais une réflexion, en fait. C'est très compliqué, une station de ski. Et vous parliez de l'Autriche, monsieur. L'Autriche, on a 50 ans de retard à propos de la liaison de la population autrichienne et de ses montagnes. C'est essentiellement les gens du coin qui travaillent là, pas des gens qui viennent faire une saison pour se faire des sous. Alors ça, se faire des sous, c'était bon dans les années 80, ça n'existe déjà plus. Mais c'est plus du tout la même chose. Eux, ils sont chez eux. C'est pour eux qu'ils travaillent. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. L'exploitation de la montagne en Autriche est tout à fait différente de la façon dont ça se passe en France. Ça, c'est une chose. Et ce sont eux, ils sont à la maison, et c'est eux qui profitent aussi bien du tourisme d'été que du tourisme d'hiver. Et il y a encore des skieurs en Autriche, et puis des freeriders et tout ce que vous voulez aussi. Et je trouve qu'ici, on coupe un peu trop les choses entre l'été, il y a les refuges, il y a ceci, il y a cela, il y a le ski de fond, oui, mais c'est pas le ski de piste. Alors évidemment, ça coûte moins cher parce qu'il n'y a pas les remontées, mais on dame aussi. Et puis l'été, on entretient les pistes de ski de fond. Et puis, il y a un inconvénient et tout nécessite un travail et toute une façon de penser. Et ce n'est pas en quelques années qu'on les change, ces façons de penser, ni ces façons de fréquenter la montagne. Voilà. Alors, maintenant, c'est vrai, le réchauffement climatique, ça touche toute l'Europe. Alors, voyons, est-ce qu'il y a des différences d'exploitation ou de vision d'exploitation des stations d'un pays à l'autre, que ce soit l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la France, pour ne prendre que ceux qui sont alpins, peut-être plus similaires.
Comment est-ce qu'on réagit au réchauffement climatique ?
On met des canons à neige, et surtout les Alpes, et encore plus en Autriche, on met des canons à neige, encore plus en Autriche, en Italie qu'en France. Mais quand on voit ce que vous avez dit, est très juste. On a une situation qui est complexe. On a entendu un peu tous les facteurs qui jouent là sur l'évolution et sur les mutations actuelles. Et le réchauffement climatique qui introduit, on va dire, surtout, il faut vraiment réfléchir en termes d'altitude. Hein, parce que les quantités de neige au-dessus de 2000 mètres, depuis une soixantaine d'années, elles n'ont pas franchement évolué. On a des années où parfois, bon, effectivement, on a des fontes plus importantes au mois de mars, avril, parce qu'on a des printemps beaucoup plus chauds. Mais sur le cœur de l'hiver, à Val d'Isère, les données, ça ne bouge pas. C'est variable d'une année sur l'autre. Mais la tendance sur 50 ans, elle n'a pas beaucoup bougé. Tout se passe en dessous. Donc on est sur entre 1000 et 1800 mètres à peu près, où effectivement, voilà, on a une plus forte variabilité d'une année sur l'autre. Les quantités baissent. Il pleut un peu plus. On a parfois des mois de décembre qui sont... on en a deux fois plus qu'avant. Avant, ça existait aussi, mais aujourd'hui, on en a deux fois plus qui sont très peu enneigés, parfois très enneigés. Donc, et en fait, avec la neige, voilà, le problème, c'est que, d'une certaine manière, lorsque on veut continuer à aller dans une trajectoire, enfin, de se dire du ski, du ski, du ski, bon, bah, quand on a un peu moins de neige, on a une tension sur cette ressource, bon, bah, c'est clair que l'objectif, c'est de pallier à ça. Et donc, dans le cadre, en fait, à l'époque, lorsque ça a été installé, les canons à neige, lorsqu'on les a développés dans les années 80, on était clairement sur, on peut l'appeler, hein, une adaptation. C'est-à-dire que, voilà, on était face à un problème et technologiquement, on pouvait y répondre. Il n'y a plus de neige, on en fabrique. Donc, aujourd'hui, on est dans quelque chose de complètement différent. Mais en Autriche comme en Italie, les domaines skiables sont beaucoup plus enneigés artificiellement qu'en France. Mais le problème, c'est l'altitude et c'est ce qu'a dit monsieur sur les sept lots, mais je trouve que c'est assez éloquent. Alors qu'on est sur une station qui est très exposée à la problématique de la baisse de l'enneigement avec le réchauffement des températures. Pourtant, bon, voilà, on peut trouver, enfin, c'est pas forcément un problème, sauf quand on est dans les extrêmes, qu'on se retrouve, et ça on en a de plus en plus. En fait, on considère, nous, en climatologie, la tendance sur le long terme, lorsqu'on le rapporte à des activités qui regardent leur évolution sur un an ou deux ou trois, enfin, nous aussi, d'un point de vue économique, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, le problème, c'est la variabilité d'une année sur l'autre, de deux, trois ans, etc. Et en fait, on regarde, par exemple, sur 10 ans, la dernière décennie, combien on a eu d'hivers bien enneigés, combien on en a eu de très peu enneigés. Voilà. Et en fait, ce n'est pas compliqué par rapport aux années 60. À l'époque, on avait 8 hivers sur 10 qui étaient bien enneigés. Aujourd'hui, on en a 3. Voilà. Donc, mais on peut survivre avec ça. Et aussi parce qu'effectivement, on a pallié. Et les stations de ski, notamment les syndicats ou les lobbies qui travaillent sur la communication des stations, ont sorti des chiffres et des graphiques et on voit effectivement très bien qu'ils ont fortement diminué leur vulnérabilité par rapport aux hivers sans neige, notamment les 3 premiers qu'il y a eu au début des années 90, 89, 91 ou 92, parce qu'ils ont installé l'enneigement artificiel et que, alors qu'à l'époque, ça pouvait être des années très dures, d'ailleurs, qui ont eu des conséquences fortes sur des stations. Aujourd'hui, dès qu'on est en dehors de 5-6 stations sur je ne sais pas combien, qui peuvent avoir des difficultés parce qu'elles ont un modèle qui est un peu compliqué, et qu'elles sont à basse altitude et que les gens ne viennent pas forcément faire du ski. Mais bon. Les autres, elles s'en sortent beaucoup mieux en termes de pistes de ski enneigées, tout simplement. Alors après, si on veut faire du hors-piste, c'est le gros problème. Aujourd'hui, et encore, ça va être de pire en pire. Et notamment en dessous de 1800 mètres, on estime qu'il faut 30 cm de neige en hors-piste pour skier. En dessous de 1008, un degré de plus, d'ici 15-20 ans, on passe dessous. En moyenne sur une dizaine d'années. Donc, en gros, en dessous de 1008, alors que les investissements, alors que la neige de culture, ça va être compliqué pour qu'elle pallie à cette multiplication d'hiver sans neige, on risque aussi de se retrouver dans des situations compliquées pour ce qui est aussi sur la neige naturelle. Et effectivement, là, on est un peu entre deux mondes. Enfin, voilà, les transitions sont longues avec le climat. Donc, parfois, il suffit. Et on n'est pas, là, on imagine que c'est des tendances de fond. Alors voilà, les hivers sont de moins en moins enneigés. Enfin, regardez celui qui en vient de passer. C'est pas du tout le cas. C'était l'un des plus enneigés depuis 30 ans, si c'était pas le plus enneigé depuis 84. Et là, il se peut très bien que dans cette variabilité climatique, dans 5 ans, on ait 5 ans d'hiver super bien enneigé, même à 1005. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment ça va réagir, mais tous ceux qui continuent la fuite en avant, on dira qu'ils ont eu raison. Enfin, je pense que le facteur neige, faut faire attention, faut pas trop lui accorder trop d'importance, sauf à basse altitude, où là, effectivement, c'est logique en même temps. Mais au-dessus, c'est pas forcément un facteur important.
Je suis assez content sur ce qui vient d'être dit. Un petit point sur ce neige de culture. La neige de culture actuellement a fiabilisé le fonctionnement du station. On n'a jamais eu aussi peu peur du manque de neige. Alors actuellement, effectivement, il y a un problème sur le début de saison, qui a eu un effet technique énorme, parce que des fois, on n'a pas de froid, on ne peut pas produire. Et donc, les raisonnements des stations, c'est maintenant, je vous le dis, c'est un scoop, il faut pouvoir enneiger son domaine en 72 heures, parce que la fenêtre de froid est très courte. Donc, quand on n'a pas ça, parce que pour enneiger en 72 heures, vous imaginez les débits qu'il faut avoir, mais quand on n'a pas ça, à partir du 10 janvier, l'enneigement n'est plus aucun problème jusqu'à fin avril. Et en avril, il n'y a plus de clients. Et à partir du 20 mars, sur des stations comme les Sept-Lots à basse altitude, plus un mec vient là. Ça ne l'intéresse plus, ce n'est plus le produit. On a la neige pour aller jusqu'au 20 janvier, jusqu'au 20 avril, et il n'y a personne. Mais pour l'exploitant, ce n'est plus un souci. Un souci un petit peu sur Noël, mais après, on n'a pas de souci d'enneigement. Plus de souci d'enneigement depuis l'année fatale de 90, où les chiffres d'affaires de la totalité des stations ont été divisés par deux. La neige est arrivée le 11 février, et donc ça a déclenché l'investissement neige à partir de ces années-là. Il y en avait très peu avant, très très peu. Hein.
Madame, votre exposé était, moi j'ai trouvé très intéressant et très instructif. J'aurais envie de dire, juste pour caricaturer un peu le sujet, c'est de dire, peu importe s'il y a de la neige ou pas dans le futur, parce qu'il n'y aura plus de skieurs, si j'ai bien compris. Oui, il n'y en aura plus beaucoup. Alors justement, vous avez abordé le sujet. Je voudrais vous demander que vous en donniez une analyse, parce que ce que vous avez abordé à propos de la neige, en fait, quelque part, derrière, on a envie de se poser la question de la morphologie sociologique des vacances de masse. Autrement dit, si j'ai bien compris, on passe d'une vacance de masse à des vacances d'élite, même si ce mot, aujourd'hui, il faut l'utiliser avec importance, le mot, avec précaution, ce mot élite. Ce que vous avez expliqué à propos de la neige, moi je l'ai connu à propos de la voile, de la planche à voile. Je fais partie d'une génération, vu la couleur de mes cheveux, où on était totalement fanat de tennis, on ne rêvait que de ça. On était totalement fanat de planche à voile, on ne rêvait que de ça, il y en avait partout. Et on était également, enfin, j'étais au bord de la mer, je n'étais pas à la montagne, mais à la montagne, les gens étaient totalement fanats de ski et il y avait beaucoup de monde dans la station de ski. Mais on voit aujourd'hui, si vous allez au bord de la plage, vous ne voyez plus de planche à voile. Alors vous voyez un sport d'élite avec des kites, surf et des trucs comme ça, mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors expliquez-nous, est-ce que vous avez une explication eu égard à cette évolution de la demande finalement en matière de tourisme au sens large et de tourisme sportif en particulier. Merci.
Oui, là, non, c'est difficile ce que vous dites. Je vais juste rebondir quand même avant d'essayer de vous répondre et plus que modestement parce que je n'ai pas vos réponses. On lance par exemple aujourd'hui une vaste étude avec les étudiants en sociologie sur les représentations de la montagne chez les jeunes. À savoir, c'est quoi la montagne pour vous ? Vous y allez ? Pourquoi vous y allez ? Pourquoi vous n'y allez pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour que vous y allez ? Et ça, c'est des questions toutes simples, mais qui déjà, je prends un exemple tout bête, même s'il ne faut pas du tout le généraliser. Hier, j'étais avec un groupe d'étudiants de sociologie, et l'étudiant, donc je vous dis, il n'y en a que 6 qui vont sur le groupe, là, il n'y en avait que 6 qui allaient faire du ski. Et puis, il y en a un qui dit, moi, je suis tellement allé petit avec mes parents que pour moi, c'est un souvenir insupportable. Je ne veux pas retourner à montagne parce que c'était le ski, l'été, c'était la randonnée. Et ça, c'est un truc que je ne veux plus faire. Mais j'ai dit, tu te rends compte que tu associes l'image de la montagne à finalement ton éducation, à la façon dont on te l'a fait partager finalement, hein, et dont on te l'a fait découvrir. Donc ça, c'était juste pour une petite anecdote. Je n'ai pas de réponse de fond à ce que vous dites. Ça demande, comme le disait mon collègue, les mutations, elles sont quand même, pour prendre du recul, ça prend du temps. Et là, je pense qu'on est dans un virage, mais qui ne touche pas que le problème de la montagne, qui touche le problème de l'activité physique en général, où c'est plus un lieu de convivialité. On n'a qu'à regarder toutes les activités liées au yoga ou autres, comment elles se sont développées. Donc, on voit bien que les gens recherchent autre chose. Est-ce que c'est une réponse au stress de la vie ? Est-ce que, enfin, y a plein de facteurs qui interviennent sur ce point-là. Sur la planche à voile, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Et là, c'est mon autre casquette de biomécanique qui me fait parler. La planche à voile, il y a eu cette génération dont on fait partie. Je n'ai pas peut-être moins de cheveux blancs que vous, mais je pense qu'on n'est pas bien loin. Et moi, j'ai vu ces débuts de la planche à voile, les gros tanks au début, puis après, on les a rapetissés. Puis après, on avait des planches à voile, départ dans l'eau, hyper technique. Et ils ne se sont pas rendus compte que la technicité du matériel faisait que finalement, il n'y avait plus la place pour des débutants. Et ça n'a pas été le cas du ski. Le ski, et si on regarde bien d'ailleurs le ski, c'est quand même vraiment intéressant parce que si vous regardez comment sont venus les skis paraboliques qui ont quand même beaucoup facilité l'apprentissage du ski, ils ne sont pas venus du ski alpin. Ils sont venus de la concurrence du surf. Et quand vous regardez les premiers croquis qui ont été faits sur l'évolution du ski parabolique, on essaye de reproduire les côtes des surfs, adaptées évidemment au ski, pour permettre de tourner beaucoup plus facile. Parce qu'on s'est dit, mais si on fait rien avec nos skis alpins, mais alors là, on va voir plus personne, parce que c'est impraticable, ce truc. On doit rendre la pratique plus accessible. Donc, je dirais qu'il y a eu l'époque aussi où on faisait du tout petit ski. Après, il y a eu les petites patinettes. Mais le ski parabolique a quand même été une rupture et une vraie innovation, pour le coup. Il n'est pas né du ski alpin. Il est né vraiment du surf, de se dire, mais ce truc, c'est tous les jeunes sont en train d'aller là-dessus parce que c'est facile à tourner. Donc, comment on change nos skis pour arriver à en faire quelque chose d'accessible ? Donc, vous voyez que par rapport à la problématique de l'abandon un petit peu de cette planche à voile et vous avez raison de dire que c'est devenu une pratique d'élite, par rapport au ski où il y a eu quand même des efforts des constructeurs pour arriver à faire un outil beaucoup plus facile à apprivoiser et à utiliser, c'est pas tout à fait la même. Et malgré tout ça, je peux vous donner aussi des exemples. Il y a eu des mesures, je ne dirais pas de qui, mais qui ont été faites sur la gratuité des forfaits avec le transport pour des étudiants et pour des jeunes, ça a été un tollé. Ils ne sont pas allés plus pour ça au ski. Donc, y a quand même un vrai problème de fondamental de l'image qu'ont les jeunes de la montagne. C'est ringard, on s'y ennuie. Alors, il y a la folie douce, oui, ok. C'est peut-être un cas extrême, mais aujourd'hui, comment la pratique a évolué sur les skis? Oui, les choses sont modernisées, il y a des débrayables, on monte à 8 au lieu de monter à 2, on a moins froid, ok. Mais comment la pratique elle-même a évolué et qu'est-ce qu'on offre? Je ne suis pas sûre que c'est aussi autant évolué que ce que ça aurait pu, quoi.
Allô, allô.
Oui, ça y est. Alors moi, j'avais 15 ans dans les années 60. J'étais à Lyon et j'avais un frère qui était gonflé. Il avait acheté une petite maison de village à Tignes-les-Brevières. Et donc, toute la bande de jeunes là, du lycée dont on était, eh ben, on allait à Tignes-les-Brevières. Et je me rappelle, c'était extraordinaire, les Brevières, à ce moment-là. Bon, mais c'est resté assez dans son jus, les Brevières. Je me rappelle, il y avait un bistrot à côté de l'endroit où on habitait, avec un gars avec un béret savoyard et tout. On allait jouer aux cartes là-bas. Bon, voilà. Et puis, on montait à Val d'Isère. Alors, avec la navette, parce qu'on n'avait pas un rond, on n'avait pas de voiture. Bon, voilà. Et puis voilà. Et puis, alors, on était avec nos skis, il fallait voir le truc. Et puis, voilà, moi, j'étais de cette génération où on n'avait pas peur dessus un peu. Ça, c'est vrai. Hein. Val d'Isère, je me souviens, Val d'Isère, la dernière fois que je suis allé, c'était en 69. Ouais, il y a 50 ans, c'est ça. Mais je me souviens déjà de Val d'Isère avant. C'était assez sympa. Moi, j'aimais bien Val d'Isère. Enfin, c'était pas. Enfin, ouais, on sentait que c'était un truc qui était en train de bouger, mais bon, bien. Et puis, stop. Je quitte la région Rhône-Alpes et je suis revenu il y a 2 ans. Et cet été, j'ai eu une double expérience parce que j'avais pas remis les pieds dans les Alpes quasiment depuis 50 ans. J'ai donc eu une double expérience. D'abord, j'ai découvert un truc qui m'a paru assez génial, mais peut-être assez élitiste aussi, j'en sais rien. C'est le Géofestival Beaufortin-Vanoise. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. J'ai trouvé ça génial. Bon. Et puis, on s'est dit, on va quand même aller voir un peu Val d'Isère, ce que ça devient. Bon. Donc, je suis retourné à Val d'Isère. Et alors là, j'ai eu un choc complet. C'est-à-dire, pour moi, c'est un supermarché. Voilà, c'est un supermarché. Bon. Je crois que tout ce qu'on aimait il y a 50 ans, sortir de la ville, sortir de Lyon, avec cette espèce de crasse lyonnaise, bon, voilà. Et aller, voilà, aller au fond de la Tarentaise, où on trouvait les Brévières, Val d'Isère, qui n'était pas du tout comme maintenant, le col de l'Iseran, mais il fallait voir, il n'y avait pas un téléski, bon, on y allait comme ça, bon voilà. Je crois qu'on y trouvait un cadre naturel et on y trouvait une sortie de la ville. Enfin, pour moi lyonnais, c'est comme ça que j'ai vécu ça. C'est vrai que le retour a été dur hein, cet été quand j'ai vu ce qu'est devenu Val d'Isère. Donc voilà, moi je me pose simplement la question, de... Enfin, pour nous, la montagne, c'était pas cher, c'était le joyeux inconfort, c'était la nature, c'était un espèce de cadre savoyard, enfin de montagnard, qu'on était berlués, nous les gamins, on découvrait ça, c'était fantastique. Moi, j'ai mes plus beaux souvenirs, je les ai de ces coins-là, il y a 50 ans. Je me demande. Bon, ben, je crois qu'il y a quelque chose là qu'on a perdu. Alors, moi, je n'ai pas de solution magique. Je vois simplement qu'un truc comme cet été, là, j'ai beaucoup aimé ce qu'ont fait les géologues, là. Mais enfin, évidemment, c'est un peu haut de gamme, peut-être. J'en sais rien. Il y avait des gamins, il y avait des familles. Bon, ça marchait pas mal. Je me demande si aussi, il n'y a pas une recherche. Enfin, je ne sais pas, mais ces espèces d'ambiance, supermarché, quartier de ville à la montagne... Je me demande si on n'a pas scié la branche sur laquelle on était en partie assis.
Bon, effectivement, est-ce qu'il reste de la montagne en Savoie et est-ce que c'est un problème?
c'est en effet un problème parce que la montagne est maintenant très colonisée, enfin le terme est un peu fort, mais urbanisée, et des endroits tranquilles, on a quelques difficultés à en trouver. Alors nous, nous avions milité au moment de la refonte de la loi montagne de 1985, donc avec Bernadette Laclais qui était députée à l'époque, pour essayer de créer en montagne des zones de tranquillité, c'est-à-dire des zones où on ne ferait rien, aucune remontée mécanique, aucune route, aucune construction, mais ensuite on laisserait la liberté des gens d'aller, de venir, de dormir si vous voulez, de faire du ski de randonnée, c'est peut-être pas le terme nouveau, actuel, mais enfin, voilà, ça n'est pas passé dans la loi. N'empêche que nous essayons toujours de garder des secteurs plus ou moins étendus, maintenant il sera petit souvent, sans circulation motorisée. Une de nos inquiétudes dans montagne, c'est de voir le développement des sports motorisés. Et ça, c'est une gêne pour la faune, bien sûr, c'est important pour la montagne. C'est aussi une gêne pour les pratiquants classiques de la marche, de la randonnée. Et là, on bataille dur pour que les gens ne partent pas à moto, en motoneige l'hiver, partout. Et la loi est ailleurs avec nous, puisque la circulation motorisée est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Donc la loi est claire, mais elle n'est pas respectée en général. Voilà ce qu'on essaye de faire. Je vous fais part quand même d'une expérience qui pourrait donner des idées. Je parlais d'autres attraits de la montagne, en dehors du ski, de la neige. La commune de Sainte-Foy-Tarentaise a créé, maintenant il y a 25 ans, 30 ans, une station de ski qui n'est pas immense, au-dessus du village Sainte-Foy-Tarentaise. Et elle vit moyennement, peut-être un peu mieux que le collet d'Elvar, mais c'est quand même difficile, je crois, financièrement. Et la commune avait l'intention de basculer ces pistes de ski de l'autre côté du col de l'Aiguille, vous connaissez peut-être, à 2600 mètres d'altitude, pour descendre dans ce qu'on appelle, ce qui est le vallon du Clou, 2500 hectares quand même, c'est immense. Et le vallon du Clou, pour ceux qui connaissent, on y rentre par le beau hameau classé, maintenant, du Monal. Et après, en continuant, en 2 heures de marche, on est au milieu du vallon du Clou. Eh bien, ce vallon du Clou, où nous avons bataillé, nous, à la Frapna, pendant plusieurs années, avec Mountain Wilderness, avec la Fédération des clubs alpins, et avec Vivre en Tarentaise, pour que cet ensemble de 2500 hectares soit classé au titre des sites. Quand on classe au titre des sites, c'est un décret, ça veut dire qu'on ne peut plus construire sans autorisation, qu'on ne peut pas faire de pistes de ski, de remontées mécaniques sans autorisation. En général, les pistes de ski et les remontées mécaniques sont refusées. Et là, maintenant, se pose le problème de savoir comment on va faire avec ces 2500 hectares qui sont vierges de toute construction, sauf le hameau du Moulal, et vierges de toute piste de ski. EDF est propriétaire d'une vaste surface dans ces 2500 hectares, puisqu'il y avait eu initialement, en 1980, un projet de réservoir hydraulique. Le vallon du Clou devait être noyé comme tigne par un grand barrage. Ça n'a pas eu lieu. Et EDF reste propriétaire des lieux. Il y a des beaux chalets savoyards inoccupés. Et il y a aussi, en fond de ce vallon, qui est assez plat, beaucoup d'élevages avec des troupeaux bovins qui, certains, font 2000 litres de lait par jour. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Et alors, le EDF est mis en responsabilité, face à sa responsabilité de propriétaire pour l'entretien des chalets. Si bien qu'il y a une réflexion commune, EDF, et puis toutes les associations qui veulent bien, l'association des communes de Tarentaise également, pour voir comment on peut valoriser ce vallon du Clou avec ses chalets, avec son élevage, sans y mettre de piste de ski, et d'une manière autre que la valorisation classique des stations de ski.
Oui, je reviens un peu sur ce dont vous aviez parlé, là, les sorties à Albertville de géologie. C'est aussi quelque chose qui est un peu négligé dans les sorties en montagne. C'est que les gens, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils voient. Or, ici, les Alpes, c'est quand même une région, au niveau international, c'est une région formidable, où il y a une collision entre l'Afrique et l'Europe, c'est où on peut voir des massifs africains, par exemple, c'est pas le Mont Blanc, je ne sais plus comment il s'appelle, le Cervin qui est africain, hein, maintenant vous le savez, et puis tous les autres massifs qui sont européens. Donc je pense qu'on peut développer un autre tourisme en montagne en faisant des sorties qui expliquent ce qu'on voit, comment ça s'est passé dans le temps, pourquoi c'est comme ça. Voilà. Et bon, on apprend quelques notions de géologie, hein, mais c'est pas extraordinairement difficile. Hein, mais ça change complètement la façon de voir les montagnes. On ne voit pas que des bosses et des creux et des pics et des trucs comme ça. On voit, là, c'est telle époque, là, il y a une érosion, voilà, et au-dessus, c'est des terrains pluvieux. Si, ils peuvent être pluvieux au-dessus, mais on se demande pourquoi, ben, c'est parce qu'il y a eu un chevauchement de terrains pluvieux sur des terrains plus jeunes. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à développer là-dessus. Et en particulier, moi, je le sais, il y a à Chambéry, il y a un professeur de géologie qui fait des sorties. On est une trentaine, 35. Il fait des cours aussi pour expliquer le climat, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pour expliquer la formation des montagnes. Il y a la même chose à Grenoble. Et je pense que si dans les randonnées aussi, qui sont souvent faites juste pour regarder, il y avait ces explications-là, ça motiverait plus les gens.
Quelle peut être la place de ce type de tourisme, de randonnée, de découverte de la montagne dans l'activité montagne ?
Alors, je pense qu'à midi, on a animé une table ronde avec des guides italiens et français, des guides de haute montagne. Et puis, on avait aussi invité le directeur de l'Observatoire du Val d'Aoste, très, très bel observatoire. Visiblement, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Et puis, de l'autre côté, on avait un professionnel du massif des Bauges qui est spéléologue. Je lui fais de la pub parce que c'est extraordinaire ce qu'il a mis en place. Ça s'appelle Cartes 3E. Et lui, il a dit une phrase extrêmement intéressante. Il a dit « Je ne fais plus parcourir les grottes, je les fais découvrir ». Et il a expliqué comment, finalement, il essayait de faire retrouver, de répondre et de susciter finalement la découverte pour des familles. Alors là aussi, il a été très bon parce qu'il explique qu'il a fait des choses pour des enfants de 3 ans. Il a fait une activité pour les enfants de 3 ans. Il a fait des activités pour des familles. Il a fait des activités pour des ados. Alors dans la salle, les gens lui disent « Oui, mais quel âge ils ont, vos clients ?» Bah, ils ont la plus grosse partie de ma clientèle, elle a entre 18 et 30 ans. Alors, ils l'ont tous regardé complètement écarquillé, parce qu'il y avait les deux guides, un de Val d'Isère, justement, et un autre de Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui voulait encore d'ailleurs s'appeler encore Saint-Gervais-les-Bains. Mais alors là, c'était marrant, parce qu'il y avait trois guides autour de la table. Il y avait une femme aussi, atypique, complète, parce que c'était une Suédoise. Elle est la 13e femme qui est devenue guide en France, diplômée par l'ENSA. Et les trois guides étaient, j'animais la table ronde, j'ai essayé de les pousser pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à ce changement de clientèle? Parce qu'ils disaient, ah ben nous, on a encore nos clients comme avant, qui font des courses, qu'on revoit, qui sont devenus des amis. Hein. Puis ils disaient, l'autre côté, il avait appelé ça les clients Kleenex. Voilà. Alors ceux-là, ils vont sur Internet, ils cherchent le guide qui va pouvoir les emmener en haut du Mont Blanc pour le moins cher possible. Ils font le Mont Blanc, ils repartent, ils ne reviendront jamais plus. Ils appelaient ça le client Kleenex. Et je leur dis, alors pareil, oui, on a un vieillissement, on a de moins en moins de jeunes et tout ça. Et donc, on leur demande, mais qu'est-ce que vous faites dans votre offre? Comment vous vous adaptez? Comment vous créez? Ils font rien. Ils sont restés sur un modèle tel qu'ils étaient. C'est un service, exactement. Et aucune évolution Et alors, de l'autre côté, on avait ce spéléologue qui racontait un peu tout ce qu'il avait développé et qui travaille toute l'année. Et on avait ce gars qui avait cet observatoire dans le Val d'Aoste qui expliquait tout le travail qu'il faisait avec des enfants, pas seulement des classes. Et puis, à un moment donné, il a pris la parole et il a dit « Moi, je vais vous dire, par exemple, l'équivalent du CAF en Italie, ça s'appelle c'est plus le club à pain italien, je sais plus comment ça s'appelle, et le CAI, voilà. » Et il expliquait ce que le CAI italien avait mis en place avec des enfants et avec des familles. Et je me retourne vers les guides et je leur dis, mais est-ce que vous essayez de faire le même type de choses avec le CAF, de travailler ensemble? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. À un moment donné, si on veut attirer des publics qui ne sont pas là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les intéresser. Et ce n'est pas ce qu'ils font. On s'est fait ça. Et puis, il n'y a qu'à regarder le ski. Je reviens sur la partie Autriche qui a été dite. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés en Autriche, mais au niveau de l'accueil, c'est quand même la première chose, quoi. Je veux dire, nous, je ne sais pas, on a quand même... Moi, j'avais toujours proposé au directeur de Savoie-Mont-Blanc de faire une vidéo sur comment on accueille les touristes en France. Parce que c'est quand même hallucinant de voir comment on accueille les gens globalement, quoi. Je veux dire... Il n'y a pas d'accueil, quoi. Par rapport à ça, je pense qu'il y a quand même toute une culture à faire. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a encore pas assez faim pour se poser la question de il faut changer à un moment donné, il faut évoluer.
Oui. Je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le côté de l'école. Là. Monsieur Marchand a dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de classe de neige. Un petit peu modérer l'expression. Moi, je fais partie de ces gens comme monsieur. Hein, en 1960, j'avais le même âge que vous. Mais moi, j'allais à la FECLA, derrière, chez l'Aurore. Dans la famille, on en est à la troisième génération qui a appris à skier en tenant une grosse corde derrière chez l'Aurore. J'espère que la quatrième génération, qui n'est pas encore là, pourra le faire s'il y a encore de la neige. Je suis arrivé prof d'éducation physique à Chambéry avec mon ami qui est assis à ma gauche, là. Dans le même collège, au centre-ville de Chambéry, où on avait deux types de milieux sociaux, le centre-ville de Chambéry et le quartier du Biolay. Et à l'époque, c'était 1 sur 2 qui allait au ski. Je pense qu'on est en dessous maintenant. On est largement en dessous, y compris dans ce collège-là. Peut-être qu'il est moins couru par le centre-ville. Bref, c'est une parenthèse. Et au niveau des pratiques sportives, on a essayé... de lancer, d'ailleurs je crois que ça a été les premiers collèges de Savoie qui sont partis en classe de neige. Donc on a mis ça sur pied et tout. Il y a quand même, j'allais dire, un côté hédoniste dans la pratique du ski. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, des nouvelles pratiques, etc. On voit ça dans tous les sports. Et le jeune qui n'arrive pas à se représenter le grand champion qui fait 4 tours en l'air avec ses skis, c'est la même chose quand il regarde la Vilénie qui saute 6 mètres à la perche. Ça va être la même chose que... Bon, bref, j'arrête sur les exemples. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Mais on a quand même un rôle au niveau scolaire. J'ai dit que je voulais parler de ce que je connaissais bien pour amener à apprécier une pratique. Les hussards noirs de la République ont voulu avec l'école, construire la République. Ils y sont à peu près arrivés. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que rapidement, la société allait modifier l'école. Et c'est fait, ça. Si on passe des surfs au ski, etc., c'est parce qu'on a réfléchi, effectivement, mais c'est parce qu'il y a des marchands qui fabriquent. Et c'est aussi ça dans tous les domaines. La planche à voile, j'ai aussi commencé. Bref, il y a beaucoup de cheveux blancs ici, c'est vrai. Donc, ce sur quoi je veux arriver, c'est de dire qu'on a quand même un rôle éducatif. Et courir après les modes, c'est peut-être bien, mais il y a aussi peut-être moyen de proposer l'activité et, sans vouloir paraphraser, en même temps, amener à un certain nombre de découvertes. Et c'est vrai que les classes de neige sont très bien pour ça. Petite parenthèse, en Savoie, grâce à certaines associations très dynamiques que vous avez fréquentées professionnellement, les classes de neige sont beaucoup moins en diminution que dans tous les autres départements français. Mais là, il y a d'autres phénomènes. Il y a des phénomènes financiers, des phénomènes de réglementation, de trouille, de se faire mal, de se blesser. Vous suivez comme moi les informations sur ce sujet-là. Donc, il y a un moment où il faut ne pas continuer à suivre sans arrêt la mode qui vient, la dernière mode. Je crois que c'est pareil dans tous les domaines. Et on doit pouvoir... continuer à profiter du plaisir que peut présenter le ski, ce qui n'empêche pas. Dans la discussion de ce soir, j'ai un peu l'impression à un certain moment que c'est l'un ou l'autre. Non, on ne va pas remplacer l'un par l'autre. Moi, je fréquente beaucoup maintenant la station d'Arèche. C'est aussi bien l'été que l'hiver. Et c'est une station qui n'a encore pas été trop abîmée. Par contre, on va peut-être aller voir, l'aider à gérer pour qu'elle puisse faire quelques remontées quand même, parce que ça commence à y vieillir là.
On va bientôt faire une pause. Ce que je voudrais savoir, est-ce que à la FRAPNA, vous faites des découvertes de la montagne, des trucs un peu pédagogiques? Vous emmenez des jeunes?
On l'a fait les hivers précédents, des sorties raquettes. C'est déjà une forme de découverte de la montagne, parce que c'est pour voir le paysage, à la rigueur les traces d'animaux, pour se rendre compte du silence, parce qu'il y avait une partie du parcours où on ne parlait pas. Donc il y a des efforts, mais ce n'est pas à hauteur de la population de jeunes qu'il y a en Savoie. Donc on fait quelques sorties, ça touche peut-être 100 jeunes par hiver, ce n'est pas énorme. Mais la tendance est en effet très favorable à ce qu'on développe ceci avec un animateur accompagnateur en moyenne montagne qui fait ça. Il en a la compétence et généralement, et le nombre de jeunes qui viennent ne le faiblit pas.
Bon, vous savez, nous allons arrêter 10 minutes. Ah, il y a une question ?
Je voudrais faire juste deux petites remarques. Une qui s'adresse plutôt à votre droite, donc à ma gauche, sur l'aspect environnemental et développement économique. Et puis une autre plus sur l'aspect sociologique du tourisme, à vous qui êtes à gauche là. Donc sur l'aspect, à la gauche du président bien sûr. Donc sur l'aspect écologique ou environnemental et puis développement, c'est que l'un ne peut pas aller sans l'autre et l'autre va avec l'un. Globalement, s'il n'y a pas de développement économique quelque part, eh bien, il n'y a pas d'argent, et donc il n'y a pas de développement du tout. Donc à un moment donné, on est bien content, et en particulier en Savoie, en Haute-Savoie, qu'il y ait eu un développement qu'il aurait peut-être fallu contrôler à un moment donné, qu'on contrôle un petit peu plus maintenant, mais ce développement permet quand même, a permis le développement d'une région qui a évité effectivement d'aller à Paris faire le ramoneur. Bon, ça, c'est une première observation. Et lié à cette observation, effectivement, le développement, il faut le contrôler. Et ils le font contrôler avec les exigences que nous pose le monde d'aujourd'hui. Et le monde d'aujourd'hui nous pose l'exigence de la survie du monde. Et si, effectivement, la défense de l'environnement n'a pas de prix, parce que c'est notre survie, elle a quand même un coût. Donc, il va falloir forcément, à un moment donné, disserter, et l'actualité brûlante d'aujourd'hui nous le montre, qu'effectivement, il va falloir faire des choix dans le développement, entre les développements qui sont respectueux, mais qui permettent quand même d'assurer un développement. Dans l'aspect du tourisme...
Vous savez ce que je vous propose ?
Oui.
On va d'abord répondre assez brièvement à cette problématique extrêmement riche, et puis vous redémarrerez
sur l'aspect sociologique du tourisme.
Voilà. Est-ce qu'il faut opposer le développement économique et la protection de l'environnement?
Je dis un mot. Hein. En général, les oppositions ne sont pas très productives ni intéressantes. Donc, il faut essayer de trouver un compromis et étudier la meilleure solution partout. Je vous donne un exemple. Pour ce qu'on appelle la neige de culture, ou nous, on l'appelle la neige artificielle, on voudrait bien, si elle existe, on ne va pas la nier, elle est utile, et c'est vrai, on voudrait bien que les prélèvements en eau, dans une période où l'eau devient rare, les prélèvements en eau pour la neige de culture ou la neige artificielle soient réellement contrôlés et le cas échéant arrêté quand l'eau potable manque.
Là-dessus, j'ai une vue tout à fait différente. Il est indispensable de faire des retenues collinaires énormes en montagne. C'est la survie des réserves d'eau. Que le préfet décide de l'utilisation de cette eau, oui ou non, c'est effectivement prioritaire de servir à boire aux gens. Mais moi, trois fois dans ma vie, c'est les retenues collinaires qu'on avait faites qui permettaient de donner à boire aux bêtes et aux gens. C'est-à-dire que faire de l'eau, garder de l'eau en montagne, on ne doit pas lutter contre ça. Qu'on lutte sur son utilisation. La plupart des retenues de montagne, la plupart de nos beaux lacs qu'on visite, c'est des retenues collinaires. EDF a été le premier à en faire des tas. C'est magnifique, on se promène. C'est génial. Quand un exploitant de station de ski fait un beau lac, c'est le diable. C'est nul. C'est nul. L'exploitant est capable de faire une retenue collinaire aussi belle que les lacs d'EDF. L'utilisation de cette eau, eh bien... On sait que le préfet, maintenant, nous contrôle très bien. Il fait un inventaire complet de nos retenues collinaires et on était en arrêté. Actuellement, on n'avait pas le droit de tirer. Puis avant la pluie, le préfet nous interdisait d'utiliser l'eau de nos lacs. Donc, moi, je crois que c'est la bonne voie. Quand un exploitant veut faire une retenue collinaire, le préfet, plutôt que de dire non, sous la pression de la retenue collinaire, c'est mal, le préfet devrait dire, vous voulez faire une retenue collinaire, vous voulez faire 100 000, faites 200 000. Parce que forcément, fin avril, elle sera complète. À la fonte des neiges, elle sera pleine, on ne s'en servira plus. Hein, donc, une espèce de droit d'eau, qui ne sera pas de notre fête, mais qui sera du fait du préfet. Mais par contre, garder de l'eau en altitude. C'est vital pour tous. C'est vital à Villard-de-Lans, où c'est un plateau calcaire, ça descend en bas. C'est vital partout. Donc, il y a des fois des confrontations idiotes. Quand on se promène, il n'y a que des retenues collinaires partout. L'autoroute en faisait partout, des gravières. C'est que des retenues collinaires. Il faut nous laisser faire des retenues collinaires. L'utilisation de l'eau, effectivement, il y a des priorités. Et les préfets savent très bien faire. On est maintenant très contrôlés. On a fait beaucoup de bêtises. On a fait des erreurs. On allait pomper dans des lacs et on détournait des rivières. C'est complètement interdit. On a mis des adjuvants. Dans les années 93-98, on avait inventé un système où on injectait dans la goutte d'eau une petite enzyme qui cristallisait beaucoup mieux la gouttelette et qui donnait une rentabilité formidable. L'année, j'avais un petit peu d'autres poissons, mais on s'en arrangeait tous. Ça a duré à peine 3 ans. Et il n'y a plus personne à ça, mais ça a eu un effet, ça. On ne met plus rien. On ne met plus rien, on ne salit pas l'eau. Elle est moins polluée que quand elle lave la voie rapide des microparticules de frein et tout. Nous, l'eau qu'on a en montagne, c'est de la belle eau. C'est encore de la belle eau. On peut la réserver pour vous. Donc, il faut arrêter les combats complètement hors normes. Laissez-nous faire des retenues collinaires. Laissez-nous faire des retenues collinaires.
Bon, est-ce qu'il y a une opposition développement et environnement? Non,
mais moi je dis, en reprenant dans le cadre du changement climatique, on peut se poser la question de la ressource en eau, tout simplement. Bon, les projections à l'heure actuelle, bon, laissez-nous faire des retenues collinaires, effectivement, si le climat ne changeait pas. Il faut quand même se poser simplement la question. Et l'année 2018, si vous voulez, est un parangon. C'est vraiment, on estime que c'est un exemple de ce qui pourrait arriver tout le temps dans les années futures, en tout cas d'ici 20-30 ans, avec des hivers qui sont assez pluvieux, doux, froids, etc. Et puis par contre, du mois de mars au mois d'octobre, c'est très sec et très chaud. Donc la retenue. Si cette année, on a une saison quand même hyper enneigée, donc elles ont pu se remplir, etc. Il y a des années, en avril, il n'y avait plus un pet de neige, même à 2500 mètres. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, ça va, par rapport aux usages, par rapport à cette eau qui est retenue, qui n'est pas renvoyée dans les écosystèmes, etc., à l'agriculture, est-ce que, d'ici 20 ou 30 ans, en exagérant un peu la situation, est-ce que, finalement, on aurait multiplié cette solution, mais qu'on se retrouverait avec des retenues vides au mois d'octobre ou de novembre. Voilà. Donc, c'est une des trajectoires, des questions à se poser, parce que l'évapotranspiration aujourd'hui, c'est ce qui augmente, enfin, c'est ce qui est plus inquiétant vis-à-vis de l'augmentation des températures. Cette année encore, on a battu un record là-dessus. Donc, la part d'eau qui tombe, elle s'évapore ou elle est absorbée par les plantes qui la renvoie aussi. Cette part grandit de plus en plus. Elle va encore de plus en plus grandir. Et c'est quelque chose qui est très difficilement modélisable sur ses impacts, en dehors du fait de ce qui finit dans les rivières. Ça, c'est, le lien est très fort. Mais dès qu'on commence à retenir et dès qu'on est sur des milieux où, finalement, notamment sur l'été, on a un partage qui n'est pas forcément... ça pourrait amener des tensions de plus en plus importantes, parfois irrationnelles, etc. Enfin bref.
Donc, sur le partage de l'eau.
Voilà, mais entre tout le monde. Je veux dire, partage, entre tout le monde. Les gens se mettent autour d'une table, on peut aussi mettre les animaux, on peut mettre le milieu naturel autour de la table, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, sur cette question, il faut vraiment, au cas par cas, en fonction des endroits, des lieux, en fonction des problématiques, il faut à chaque fois très bien analyser et pas juste se dire... Enfin, analyser surtout vis-à-vis des projections climatiques à court terme, enfin, court terme, moyen terme, 20-30 ans, en créant des situations un peu de stress test dans laquelle... Parce que, encore une fois, on est en train de vivre aujourd'hui ce que les modèles ne prévoyaient même pas pour dans 20 ans. Donc, simplement, imaginons des scénarios un peu catastrophiques, regardons ce que ça donne sur la montagne, parce que c'est un milieu qui est fragile, qui est soumis aux effets de seuil, et le moindre, on va dire que la moindre tension qui se rajoute en plus, on le constate sur la question de la neige, des éboulements en montagne, sur la fonte des glaciers, qui d'un seul coup peuvent toucher des activités qui ont des rentes de situation. Bon, bref, ça peut être très sensible, et cette sensibilité-là, il faut vraiment la prendre en compte lorsque on se dit qu'il faut multiplier ce genre d'investissement.
Merci bien. On va s'arrêter 10 minutes. On passe dans la pièce d'à côté et on recommence.